Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Vous dire qu'on est ravis de vous voir ce matin à la matinée d'études mise en place par Téléaccueil Bruxelles. Une matinée d'études qui s'inscrit dans le dispositif de formation qui est pensé à l'attention des écoutants de Téléaccueil Bruxelles, des autres postes de téléaccueil aussi, que je salue ce matin, et vous dire aussi que c'est un choix que nous faisons d'ouvrir ces temps de réflexion à l'extérieur, à d'autres bénévoles, à d'autres professionnels. Et donc votre présence ce matin, un samedi matin qui plus est, témoigne donc que les questions qui touchent à l'accueil, à l'écoute des personnes, sont partagées par un grand nombre de citoyens, de citoyennes, de professionnels, de bénévoles qui s'engagent dans le soutien des personnes et des communautés. Donc je disais, cette matinée fait partie intégrante du processus de formation, puisque s'engager comme écoutant à téléaccueil, c'est s'engager à la fois à faire des permanences, mais aussi à s'inscrire dans un dispositif de formation initiale et continue. Alors peut-être certains d'entre vous le savent, mais complémentairement aux espaces de supervision, à téléaccueil, on soutient tous les deux ans ce qu'on appelle un thème d'année, et qui a pour but de proposer une réflexion transversale et collective à toutes celles et ceux qui participent au projet de téléaccueil, et ce, quelle que soit la place qu'ils ou qu'elles occupent. Ce qui pour nous est une façon de conjuguer à la fois la dimension tout à fait singulière de toute réponse, de toute rencontre, pardon, et aussi le bout commun qu'on se dit qu'il est essentiel de partager entre écoutants. En septembre 2022, et certains s'en souviennent, pour introduire ce thème d'année qu'on a nommé l'écoute, un engagement à contre-temps, une formulation d'ailleurs qui nous est venue au travers, enfin via des questions qui étaient les nôtres. Quelle place pour la rencontre, pour l'accueil, pour l'écoute des personnes dans ce monde qui est quand même caractérisé par l'immédiateté, l'instantanéité, voire la rentabilité, l'efficacité. Comment soutenir un processus temporel complexe pour appréhender le lien et permettre la rencontre? Ou comment se décaler de cette nécessité souvent entendue qu'il est question d'éviter de perdre son temps? Cette idée de perdre son temps qui quand même souvent est qui sous-entend une évaluation quantitative, voire l'idée qu'il faut garantir une efficience à notre engagement. Alors pour introduire donc le thème d'année, on a invité en septembre passé Roland Gory, qui a initié avec Stéphane Chédry le mouvement L'Appel des Appels en France, et qui un mouvement qui dénonce la marchandisation des liens sociaux. Et on a regardé, souvenez-vous, pour ceux qui étaient là, le film de Xavier Gueyan qui avait consacré à Roland Gory, qui s'appelait Une époque sans esprit. Et cette matinée, pour en dire juste un petit mot, a été l'occasion de souligner que dans toutes ces questions que j'ai nommées rapidement, s'entremêlent à la fois des dimensions cliniques et aussi des dimensions des constats qui caractérisent notre temps et notre époque. L'une de ces questions, ou l'un de ces constats, est le rapport de l'écoute avec la temporalité. C'est vraiment une question à téléaccueil, et je dirais une question à tous les étages. La question du temps de l'appel, mais du temps de l'engagement aussi, pour chacun, chacune. Donc, le rapport entre l'écoute et la temporalité, c'est parce que ce n'est sans doute pas simple, alors qu'on vit, comme je le disais, dans cette société caractérisée par l'immédiateté, de maintenir une posture d'accueil et d'écoute qui parfois suppose du temps, de la réflexivité, des scansions, des ponctuations. Alors, jusqu'à dire qu'à ce titre-là, l'écoute pourrait être à contre-temps de la tendance actuelle. Cela dit, et Hélène Leuillet va nous en parler ce matin, si prendre le temps est essentiel à la rencontre et à une posture d'accueil, ça n'évacue en rien la nécessité de complémentairement soutenir la coupure. Alors en tant qu'écoutant, c'est compliqué. La coupure, on le sait, alors qu'on est là souvent pour établir du lien, qui plus est avec des gens qui en manquent ou qui n'en ont plus. Pourquoi parler de coupure, de scansion et de faim? Bon, on le sait tous, c'est peut-être évident ce que je dis, nos vies sont toutes marquées par les coupures. On sait aussi que couper, et donc être coupé, parfois fait mal, mais parfois aussi fait du bien. Donc l'enjeu, c'est d'articuler le lien et la coupure, prendre du temps, et pas tout le temps, arrêter un entretien, un appel, en prenant soin du lien, autant de questions qui, je pense, sont au cœur de nos pratiques d'écoutant et d'accueillant. Pour soutenir cette réflexion, on a invité Hélène Loyer, qu'on a déjà eu la chance de rencontrer à d'autres occasions lors de journées d'études à Téléaccueil Bruxelles, pour différentes raisons, mais je dirais c'est parce que ses réflexions, peut-être sa capacité à transmettre aussi, son intérêt, sa considération, à la fois pour nos questions, pour notre projet, et pour celles et ceux qui le mettent à l'œuvre, nous ont donné l'envie de la réinviter. Donc maître de conférence en philosophie à la Sorbonne, psychanalyste, elle est l'autrice de plusieurs ouvrages dont « Tu haïras ton prochain comme toi-même », »,« Les tentations radicales de la jeunesse », et c'est surtout son dernier livre, qui s'appelle « Éloge du retard », qui a suscité notre envie de l'inviter, de parler de cette question du temps, de la temporalité, en lien avec notre thème d'année. Voilà une occasion, vous voyez, de vous inviter, tous et toutes, à éteindre ou mettre votre téléphone en silencieux. Donc je parlais de son livre. Je vous lis ici un tout petit extrait de son livre qui souligne le lien avec nos pratiques. Elle écrit « Nous sommes des victimes consentantes d'une course folle destinée à gagner du temps. Le résultat, notre créativité personnelle, est mise tout entière au service d'un rythme de travail qui ne cesse de s'accélérer. Les conséquences, la destruction du temps subjectif, une frénésie d'anticipation, un goût exagéré pour le suspense et les thrillers. » Elle soutient aussi que face aux valeurs dominantes de la société, la fluidité, flexibilité, urgence, vitesse, rentabilité, prendre le temps, voire arriver en retard, pourrait être considéré comme une stratégie de résistance. C'est pas simple pour moi, non, je sais. Par ailleurs, et elle écrit, vous l'avez peut-être lu, dans l'argument de sa conférence de ce matin, que s'il est essentiel de prendre le temps pour écouter, une écoute sans fin serait seulement machinale et pourrait provoquer de l'angoisse. Donc on a, dans un premier temps, écouté Hélène Loyer, qui a intitulé sa conférence du jour « Écouter jusqu'à la fin » ou « L'attente d'un point d'orgue ». Dans la foulée, il y aura un temps d'échange, questions-réponses, mais aussi d'échange avec vous. Un café, et après la pause café, on reviendra ici dans une discussion qui sera avec Hélène Loyer et qui sera animée par Claire-Anne Sevrin, qui est directrice, coordinatrice au cas par cas, c'est un clin d'œil, de Yapaka, qui notamment édite des temps d'arrêt que vous trouvez à la sortie sur des thèmes qui sont bien souvent en rapport avec notre projet et nos pratiques. Et là aussi, un temps sera donné pour les échanges avec la salle. Fin des travaux prévus vers 12h30. Vous dire aussi que la librairie Tropisme est présente dans le couloir et à la pause, tous des livres, des bouquins qui sont en lien avec nos questions du jour sont disponibles ou en vente dans le couloir. Voilà. Ben écoutez, je vous souhaite la meilleure matinée possible et je vous passe la parole.
Merci beaucoup et merci. C'est bon ? Non. Voilà. Voilà. Merci beaucoup pour ces mots de présentation et puis pour l'ensemble de votre accueil, Téléaccueil Bruxelles, qui mérite bien son nom parce que je suis ravie de répondre à votre invitation. Et je remercie également un tout petit peu par anticipation Claire-Anne Sevrin, mais déjà d'avoir accepté de discuter ce que je vais dire et l'association Yapaka pour avoir donc accepté cela. Quand votre invitation m'a été adressée sur l'écoute à contre-temps, j'ai immédiatement pensé à un mot de Jean Bergès, qui était pédopsychiatre et psychanalyste, et un mot qui m'avait frappé. Dans le contexte du travail avec les adolescents, il a écrit un article dans le journal français de psychiatrie en disant que ce que l'adolescent demandait, c'était qu'on l'écoute jusqu'au bout. Et il généralisait cela à la relation de l'adolescent avec ses parents, expliquant le mutisme de certains par un raisonnement du type « si on ne m'écoute pas jusqu'au bout, ce n'est même pas la peine que je commence à parler ». Bergès prenait cela très au sérieux et évoquait aussi dans cet article le rapport de certains pères à leurs enfants pour contrebalancer la tendance des mères à toujours comprendre l'enfant, eh bien, à attendre, disait-il, qu'il parle pour les écouter, tandis que l'enfant, lui, attendait que son père l'écoute pour parler. Donc, ça ne risquait pas de commencer. Et donc, je me suis dit qu'on pouvait généraliser cela à toute expérience de l'écoute, dans le cadre de la famille, mais aussi celui de la cure analytique ou aussi celui qui vous intéresse du lien téléphonique avec les personnes qui vous appellent. On se prépare à écouter quelqu'un qui attend qu'on l'écoute jusqu'au bout pour se mettre à parler. On peut commencer seulement s'il pense qu'on va l'écouter jusqu'au bout. Mais cette exigence est à vrai dire énigmatique et je pense que si ce mot de Bergès m'était resté en l'esprit, c'est parce qu'il était resté sous forme d'énigme. Pourquoi ne disait-il tout simplement pas « écouter » comme on le fait la plupart du temps ? Et donc, puisque vous m'avez offert la possibilité de revenir sur ce point qui traînait dans ma mémoire en quelque sorte, sans que je sois allée jusqu'au bout moi-même de l'élaboration, j'ai relu cet article pour voir si Bergès donnait des éléments d'explication. En fait, il n'en donne pas vraiment. Il faut dire qu'il savait bien manier le midi, comme on dit. Il ne disait pas tout, il nous laissait y mettre un peu d'une autre. Et il propose seulement un synonyme. Il dit « écoutez jusqu'au bout », c'est-à-dire jusqu'à la fin. Alors bon, on n'est pas très avancé et on peut se demander ce que signifie « écouter jusqu'à la fin ». Nous savons tous que tout dire est dans une certaine mesure un dire sans fin. Et nous le savons à nos dépens d'ailleurs. Quand, pas nécessairement avec un psychotique, un patient ou quelqu'un qui vous appelle veut transgresser la limite du temps qu'on lui octroie jusqu'à avoir quasiment franchi le seuil pour les gens qu'on reçoit, en parlant quasiment, et puis au téléphone, il est des gens qu'on ne sait pas comment couper. Donc il n'y a pas de fin. Et ceci pour des raisons de structure du langage. Tout mot en appelle un autre. On commence à parler et puis des choses qu'on n'avait pas prévu de dire nous viennent. Donc un mot qui appelle un mot, c'est sans fin. Le discours se relance lui-même. Et Bergès, comme nous tous, connaissait les vertus et la nécessité de la coupure que Pascal vient de rappeler. Alors pourquoi ce conseil qui semble aller à l'encontre de ce que nous conseillons habituellement? Donc dans un premier temps, je vais essayer de comprendre ce que cela veut dire et de dire pourquoi il faut écouter jusqu'au bout, pourquoi il faut adapter le temps de l'écoute à la temporalité générale de nos sociétés qui sont des sociétés de la privation. Temporelle, privation de temps, sociétés d'accélération sont des sociétés de la privation de temps. On n'a pas le temps, voilà ce que nous disons sans cesse. Et donc dans ce premier temps, c'est le cas de le dire, écouter jusqu'au bout, eh bien c'est du côté de la patience, c'est attendre, être patient, se donner le temps d'écouter. Et il ne s'agit plus là seulement d'écouter mais d'entendre. Entendre, ça demande le temps d'écouter. Mais bien sûr, dans un deuxième moment de mon exposé, j'en viendrai à la nécessité de la coupure, qu'on entend d'ailleurs aussi dans l'expression de Jean Bergès, jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Il faut qu'il y ait une fin, qu'il y ait un bout. Ce qui le rend exigible, comme j'essaierai de le dire, c'est que le discours, pour être structurellement sans fin, eh bien, sans fin dans la chaîne des mots, ne l'est pas dans son articulation à une subjectivité, à un sujet. Pour qu'il y ait un sujet qui dise quelque chose, un sujet qui se constitue, qui se reconstitue dans ce qu'il dit, eh bien, il faut qu'il y ait un point d'attache, un arrêt, qui délimite son dire par opposition à ce qui n'est pas dit, ou ce qui n'est pas encore dit, ou ce qui n'a pas été dit, ou ce qui ne sera jamais dit, peu importe, mais en tout cas qui institue son dire dans une perte. Dans la constitution de la subjectivité, qui est bien le cadre de l'article que j'évoque de Jean Bergès, donc il faut qu'il y ait ceci. Enfin, dans un troisième temps, je porterai mon attention sur le désir de celui ou de celle qui écoute. Écouter jusqu'au bout, par rapport au désir de celui qui écoute, ça signifie attendre. Attendre quelque chose. Qu'est-ce qu'on attend quand on écoute quelqu'un? Qu'est-ce qui nous maintient éveillés? Comment se fait-il qu'on ne s'endort pas? On peut s'endormir quand on nous parle. Pourquoi non? Si c'était sans fin, ce serait inaudible. Mais comment reconnaître la fin, ce point qu'on attend? Comment faire entendre qu'on l'attend pour qu'il vienne? Puisque Bergès nous avertit, pour que l'autre commence à parler, il faut qu'il ait dans une certaine mesure cette assurance qu'on va aller jusqu'à un certain point. Alors j'essaierai de dire comment ça suppose qu'on déplace un peu son attention au dire de l'autre, qu'on noue un rapport au langage qui ne soit pas trop étroitement enfermé sur la signification. C'est pourquoi j'ai fait appel à une métaphore musicale dans mon titre, le point d'orgue, pour tenter de comprendre ce bout, cette fin, qui constitue l'objet du désir de celui qui écoute, de l'écoutant. Mais pour commencer, donc, écouter jusqu'au bout, c'est d'abord faire preuve de patience. Comme le dit bien votre argumentaire, écouter, c'est prendre en quelque sorte le temps social à rebours. On n'a pas le temps, personne n'a le temps, on est pris dans une course folle, on est toujours en retard sur tout, etc. Et même si j'ai écrit pour ces raisons, donc l'éloge du retard qui vient d'être évoqué, je sais d'expérience qu'il n'est pas très confortable d'aller au rebours du temps social. Il émane du grand autre social, si on peut l'appeler ainsi, de ce discours pas toujours saisissable, mais en même temps très précis, qui nous commande un certain nombre de choses. Il émane du discours social l'injonction d'aller toujours plus vite, de rentabiliser les moindres intervalles de temps, ceux qui subsistent dans une journée, dans une année, dans une semaine, voire de les supprimer en vue de toujours plus d'efficacité. On sait que dans la culture d'entreprise, ça a porté un nom très précis, le lean management, pour faire lean maigrir les intervalles, supprimer, vous avez 10 minutes de pause, on n'en prend plus que 5, etc., pour rentabiliser le temps. Et cette demande sociale excède bien entendu largement le temps de l'entreprise. C'est devenu un discours général qui nous met en difficulté la plupart du temps dans notre vie personnelle, cet intervalle de temps tout à fait inutile et qu'il faut grignoter au maximum, et nous n'avons pas véritablement la liberté de nous extraire. Il faut d'abord réaliser que nous sommes impliqués dans ce discours, que nous le voulions ou non. Et que même si nous assumons d'être en porte-à-faux, nous ne pouvons pas être imperméables à cette demande de vitesse qui nous saisit. D'abord, nous ne pouvons pas être imperméables parce qu'elle nous revient. Elle nous revient par les gens qui s'adressent à nous pour qu'on les écoute et qui n'ont eux-mêmes pas le temps, qui nous demandent de l'efficacité d'en être écoute même, comme si nous devions en quelque sorte écouter plus vite, aller plus vite en écoutant. Le raccourcissement du temps de l'écoute a déjà eu lieu dans de nombreuses professions, médicales ou judiciaires, hein, pour les conséquences les plus nettes que nous connaissions. Et c'est une demande impossible à satisfaire que ce raccourcissement du temps de l'écoute ou de la vitesse de l'écoute. Quand il s'agit de seulement écouter ce qui ne va pas, même en dehors de la maladie et du litige, hein, pour nous qui ne sommes pas véritablement dans le médical, eh bien le sentiment d'être à contre-temps est encore accentué et il peut être plus ou moins bien vécu. Il met dans une situation bancale parfois, mais c'est aussi ce contre-temps, au sens fort du temps contre les injonctions du temps social, qui permet à ce temps de l'écoute d'être une sorte de havre, d'abri, d'asile, de refuge dans la société accélérée. Parler à quelqu'un qui vous écoute, c'est déjà faire une pause, c'est déjà inventer un autre rapport à la temporalité que celui de la pression frénétique à laquelle nous ne pouvons pas nous soustraire. Ce n'est pas toujours aisé, disais-je, et ça ne se donne pas immédiatement comme un havre et un refuge. Puisque l'accélération met en état d'urgence permanent, quand, dans ces circonstances, on demande d'être écouté, l'urgence dicte un propos qui est souvent lui-même accéléré. Les premières séances avec un analyste de la part d'un patient, et je suppose aussi au téléphone pour vous, sont parfois des séances dans lesquelles on entend des personnes souffrir à force de raconter très très vite tout ce qu'elles ont à dire. Et surtout, j'ai eu une expérience récente quand ces séances ont lieu juste avant la coupure de l'été. J'ai en tête quelqu'un qui craignait tellement de ne pas arriver à tenir le rythme qu'il regardait sans cesse sa montre en s'angoissant du temps qui diminuait. Et il a presque réussi à me stresser. Et d'ailleurs, moi aussi, je craignais de ne pas réussir à l'écouter tant son débit était rapide et les détails si nombreux qu'on avançait dans la chronologie de ce qui lui était arrivé à une vitesse inversement proportionnelle à celle de sa parole. Donc j'étais totalement perdu, et il a été très étonné quand je l'ai interrompu pour lui dire tout simplement, en dépit de l'été qui arrivait, on a le temps. Et je l'ai revu à la rentrée, il était déjà un peu tranquillisé. Il n'a plus regardé sa montre qu'une seule fois. Il y a déjà quelques dizaines d'années, la question ne se posait pas. Le pacte qui lie l'écoutant et l'écouté ne portait pas sur ce point, mais sur la règle de l'association libre, sur le règlement des séances pour les analystes, sur les absences. Mais aujourd'hui, j'ai vraiment eu le sentiment de rappeler un pacte. On a le temps. Quand on commence à écouter, ne serait-ce que 30 minutes hebdomadaires, le pacte, c'est on a le temps. C'est un vrai pacte. L'analysant ou l'écoutant ne doit pas nous demander ce à quoi on n'a pas la possibilité de s'engager, à savoir un délai de réponse à sa demande ou à ce qu'il croit être sa demande. Parce que si on ne se donne pas le temps d'interroger le rapport de cette demande à un désir qui d'abord n'est pas audible, hein, ce qu'on appelle quand même un désir inconscient, au sens très banal du terme, un désir dont on n'a pas conscience immédiatement quand on formule une demande, eh bien, alors, on ne peut pas, nous, s'engager dans une écoute. On doit d'abord savoir attendre, résister donc à cette urgence, savoir qu'il existe une distorsion, que ce qui est demandé là, c'est-à-dire qu'on suive une chronologie, généralement ça commence comme ça, il est arrivé ceci, il faut que je vous raconte dans les détails. Oui, bien sûr, on doit prêter l'oreille à ça. Mais en attendant autre chose, en attendant à quoi ça va nous amener, en sachant qu'il existe une distorsion en ce qui est vraiment à dire, et puis ce premier récit, et ceci quelle que soit la détresse de celui ou celle qui fait appel à nous. Donc en donnant du temps, comme écoutant ou comme analyste, on endosse l'attente en quelque sorte. On prend sur soi une attente. Bergès, d'ailleurs, disait toujours que les enfants avaient aujourd'hui trop pris l'habitude, quand ils demandaient d'être regardés ou écoutés, hein, dans cette phase des petits-enfants qui disent « Regarde, regarde, regarde !» Eh bien, ils avaient trop pris l'habitude qu'on leur réponde « Attends un peu !» Bergès, déjà, il y a des années, avait perçu les germes de l'accélération. Il dit, quand on regarde les enfants qui jouent, ils disent « Attends un peu, attends un peu !» Dans la société accélérée, c'est toujours le dire qui doit attendre. C'est toujours le dire qui est considéré comme superflu. Le matériel, le pragmatique d'abord. Et on se parle s'il reste du temps. La logistique, comme disent les patients. D'abord, la logistique. Avec mon conjoint, on parle essentiellement de logistique. Voilà ce que on entend souvent. Hein. Et le reste, se parler, ben précisément, on n'en parle pas. Et quand on écoute, c'est le contraire. On attend et on ne demande plus à la personne d'attendre pour s'installer dans le temps de l'écoute. Dans un entretien de 1974, Jacques Lacan disait de la psychanalyse que les voies par lesquelles procède cet acte de parole réclame beaucoup de pratique, et une infinie patience. La patience et la mesure sont les instruments de la psychanalyse. Je crois qu'il faut recommencer par cela, par la patience. Mais qu'est-ce que la patience ? La patience, c'est un rapport au temps qui semble d'abord très passif. Étymologie. La patience semble vouer celui ou celle qui écoute à une forme de passivité. En quel sens ? Mais je pense que même si on peut complexifier ce sens, hein, comme je vais le faire, c'est néanmoins une dimension première que cette passivité, inéliminable. C'est une première ouverture à l'altérité. Et comme souvent d'ailleurs, cette ouverture peut prendre une forme déceptive. C'est une façon commune d'éprouver la passivité que d'être déçu. L'écoute peut toujours être déçue. Comme analyste, on a l'habitude de ces séances qui marquent une avancée. Ah là, il s'est passé quelque chose et on imagine qu'elles seront suivies de la reprise de cette surprise, de cette découverte, de cette avancée, de l'approfondissement, voire de la prise en compte dans des actes de ce qui a été dit. Et puis non. La séance suivante arrive et non, pas du tout. On revient à des choses très factuelles, comme si c'était oublié. Il faut attendre en quelque sorte que ça refroidisse. Nous devons travailler, nous aussi, avec notre hâte, avec, non pas seulement avec la hâte de l'analysant, mais avec notre hâte que ça aille mieux, qu'il y ait des actes, que voilà, ça y est, on soit sorti de, le patient soit sorti d'affaire. Ben non, il faut être soi-même patient, pas seulement l'inviter à la patience, mais quand c'est trop tôt, quand c'est trop brûlant, ben il faut attendre que la question revienne. Donc l'installation dans la temporalité est nécessaire à l'émergence de ces petits bouts de vérité qui sont parfois un peu trop chauds, mais qu'on attend quand même. Parce que la vérité ne se livre pas immédiatement. Il faut aller la puiser. Il faut la sortir du puits. Elle n'est souvent pas loin. Ce puits, bah, c'est parfois ce qu'on a exactement sous la main, ce qui est tout près de nous, ce qui serait là parfois, on a envie de souffler à ceux qu'on écoute. C'est là, c'est juste là. Lacan commente ce conte d'Edgar Poe qui s'appelle La lettre volée, où la police cherche partout une lettre compromettante pour un personnage très important qui est sur le manteau de la cheminée de celui qui est suspect, bien sûr. Les suspects, on les trouve facilement, mais comment les confondre ? La lettre volée est sur le manteau de la cheminée avec les autres lettres. Et nous aussi, on cherche quelque chose qui est de l'ordre de la lettre, puisqu'il s'agit du dire, hein, que voilà, il y a des mots qui vont exprimer la vérité, hein, des lettres qui vont être la bonne composition, en quelque sorte, mais il ne faut pas se hâter de les attendre, car la hâte participe de ce qui recouvre la vérité, de ce qui la cache, alors même qu'elle est là tout près. La hâte nous empêche d'être attentifs à ce qui est dit littéralement, avec les mots de celui qui parle. Et donc, c'est en quelque sorte en elle-même que l'écoute est à contre-temps, indépendamment même de la société accélérée, parce que notre écoute même, parfois, se ralentit. Elle nous invite à revenir en arrière, parfois à bifurquer, à considérer que ce qui est important est le détail, comme dans les rêves, en pointant une incise, en donnant par une question au dire une nouvelle direction. Et si c'est nécessaire, c'est que malgré tous nos efforts pour être patient, on a parfois du mal à écouter sans même s'en rendre compte. Parce que le pire des courts-circuits à notre propre écoute réside dans la compréhension. Le problème de la compréhension, c'est qu'elle est pressée. Alors, il n'y a pas besoin de société accélérée. Nous voulons comprendre et en général comprendre trop vite. Et quand on n'a pas les outils pour comprendre et qu'on est pressé, eh bien, c'est là encore l'imaginaire qui prend le relais. Comme toujours, quand on ne comprend pas, c'est l'imaginaire qui prend le relais. On ne laisse pas les trous être des trous. On les comble par une compréhension imaginaire. Et voilà pourquoi on comprend toujours trop vite. Hein. C'est pourquoi Lacan le disait en 1967 dans un discours au psychiatre. Surtout ne pas comprendre trop vite. Et comprendre trop vite, c'est aussi ne pas se rendre compte qu'on comprend, alors qu'en fait, ce n'est pas toujours compréhensible. En comprenant trop vite, on tombe parfois dans le piège qu'à son insu, un patient nous tend, ou un écoutant, ou quelqu'un qui parle tend à un écoutant. Là, il m'est venu un exemple très récent hein, qui vient de m'arriver. Une femme, mère de deux enfants, jeunes adultes ayant quitté la maison, m'explique qu'elle a quasiment congédié sa fille, passée à l'improviste un dimanche soir, lui demander de l'aide pour une question administrative, aide qu'elle lui a fournie, bien sûr, mais tout en s'économisant, me fait-elle comprendre, la dimension surérogatoire, un peu plus d'ascension, un peu plus de temps. Donc, j'entendais immédiatement qu'elle voulait me montrer qu'elle se faisait un peu moins dévorer et que je pouvais être fière du travail qu'elle avait accompli, même si la culpabilité était palpable. Tant son regret d'avoir failli à ce qu'elle supposait être son devoir maternel l'habitait quand même, et qu'il ne fallait pas aller trop loin, comme un reproche qui m'était adressé, dans le renoncement à l'oblativité maternelle, à la générosité maternelle. Et j'ai tout à fait failli tomber dans le piège, ce qui montre bien que dans le piège, à mon avis, on tombe souvent sans s'en rendre compte. Mais là, je ne sais pas pourquoi, sur ce détail anecdotique qu'elle livrait en passant, j'ai demandé une précision sur un mode un peu léger. Vous ne lui avez pas proposé de rester dîner. Alors là, j'apprends qu'en fait la visite avait eu lieu bien après le dîner et que le congé avait été signifié à une heure où il est largement raisonnable d'aller se coucher quand on travaille le lendemain. Et donc ça change un petit peu la perspective sur ce qui m'avait été dit et que j'aurais pu laisser passer en comprenant trop vite que, je ne sais pas, on était vers 18h et que quand même, ça aurait été sympa de lui dire « reste dîner et puis ne pars que vers 21h ou 22h ». Alors qu'en fait, il était 22h30 quand la fille est arrivée à l'improviste. Donc, si je n'avais pas demandé la précision, je ne comprenais pas. Je prenais une mauvaise direction. Et je me suis dit, ça arrive souvent, en fait. C'est notre inconscient aussi qui supplée. Donc, on n'est jamais trop patient. Et la patience, c'est d'abord une patience avec soi-même, nécessaire pour éviter l'incompréhension qui vient de la compréhension inconsciente, imaginaire. Et elle est nécessaire aussi pour se rappeler qu'on ne peut pas soi-même parler qu'après avoir écouté et écouté patiemment et si possible, un peu longuement. Marcel Tchermak, dans « Traverser la folie », rappelle que l'interprétation, ce fragment de vérité, n'est formulable que quand elle est adressée à quelqu'un au moment presque où celui-ci pourrait l'énoncer lui-même. Comme s'il l'avait sur le bout de la langue. Considérer qu'écouter comporte des effets thérapeutiques, je pense que c'est notre foi commune, en quelque sorte, eh bien, oblige à aller au-delà du sens qu'on perçoit immédiatement, contrairement d'ailleurs à une grande insistance de notre époque sur le sens, parce que ce qui produit des effets, c'est la vérité. C'est des petits bouts de vérité. Que c'est ça qu'on recherche quand on parle. Ce n'est pas tant la satisfaction, aller mieux, résoudre son problème, mais c'est la recherche de mots qui nous représentent dans notre existence. Et cela exige donc, techniquement, quelque sorte, qu'on doive d'abord savoir de quoi il retourne pour la personne qui vient nous voir, notamment qu'on dépasse un peu l'écume du factuel, pouvoir savoir ce qui est en jeu pour telle et telle personne. Et donc ça nous demande pas mal de patience. Mais ça nous montre aussi que ce qui paraît passif ne l'est que de façon limitée. La patience n'est pas seulement réductible à une passivité, même si je pense qu'il faut commencer par là, pour déjouer les volontés de trop bien faire et d'aller trop vite. La patience est nécessaire car elle permet de passer, d'écouter à entendre, mais précisément, entendre, ce n'est pas passif. Entendre, c'est le but d'écouter. Si écouter est nécessaire pour entendre, ce n'est pas suffisant. Écouter, ce n'est pas brancher un enregistreur mécanique intérieur. On le sait tous d'expérience. Ce n'est pas se mettre en oreille automatique, en quelque sorte. Ça, ce n'est pas possible. Ce qui nous tombe dans l'oreille rejoint d'autres choses qui, par nous, ont déjà été entendu. Notre présence, qui s'entend à notre disponibilité à la parole de l'autre, n'implique pas que nous puissions considérer notre oreille comme une cire vierge sur laquelle le dire de l'autre s'inscrirait. Vieille image de la philosophie classique que cette cire mentale. Non, il n'y a pas de cire. Bien sûr qu'il faut laisser l'empreinte des paroles se graver en nous. Mais la hâte à comprendre nous montre bien qu'il n'y a pas de cire vierge, que l'imaginaire prend le relais et que donc, si écouter est une chose, entendre en est une autre, contenu dans la première, mais pas réductible. Et c'est parce que le but est d'entendre qu'il faut attendre. Et voilà pourquoi l'écoute est un engagement à contre-temps de la société accélérée, mais aussi de l'idéologie de la communication actuelle, dans le lexique de laquelle « j'entends ce que vous me dites » correspond à « cause toujours ». Je me mets en oreille automatique. Et ensuite, je reprends ce que j'avais à dire. Je n'ai pas entendu ce que vous disiez. Et donc, à l'encontre de cette idéologie de la communication où on vous dit « je vous entends pour mieux fermer ses oreilles », eh bien, il faut d'abord écouter sans comprendre. C'est ça, être patient, pour pouvoir, dans un second temps, essayer de comprendre. Parce que, bien sûr, il faut quand même essayer de comprendre. Écouter en tentant de déjouer la compréhension imaginaire, donc ce n'est pas écouter mécaniquement, mais éviter de prioriser certains éléments aux dépens d'autres. C'est ce que Freud appelle l'écoute flottante, qui n'est pas une autorisation à se distraire, à penser à autre chose, mais un parti pris de tout mettre sur le même plan, de laisser flotter les priorités, de n'attacher, dit-il, aucune importance particulière à rien de ce que nous entendons. Accorder à tout la même attention, à ce qui nous apparaît comme des détails, comme au thème général. C'est la même raison qui faisait qu'il recommandait aussi, Freud, de ne pas trop s'intéresser. L'intérêt pour ce qui est dit peut témoigner d'une forme d'impatience à comprendre encore. Et on sait bien comment, parfois, en s'emparant de ce que quelqu'un dit, du thème général de ce qu'il dit, on l'amène à laisser dans l'ombre autre chose qui aurait été dit si on n'avait pas autant accroché, en quelque sorte, si on avait davantage laissé venir. La patience de l'écoute aussi, pour cela, n'est pas passive seulement. Le silence, paradoxalement, et la question montre que la patience n'est pas passive. Que écouter, c'est attendre le point d'arrêt du silence et attendre pour savoir s'il n'y a pas autre chose qui va venir. Sur un autre mode, sur un autre ton, en changeant de sujet. Et je crois que on a tous des exemples, vous comme moi, de ces séances dans lesquelles qu'elle change complètement de sujet, presque au moment où ça va s'arrêter, complètement de change de ton, d'humeur, dans les dernières minutes. Attendre, donc, c'est pour cette raison, forcément, dans un premier temps, garder le silence, voir s'il n'y a pas autre chose qui va arriver. Le silence de l'écoutant est un appel à la parole. Ça a beaucoup de mal à être reçu aujourd'hui, parce que le silence est souvent vécu comme un trou, comme un gouffre, comme un abîme. Et donc, parfois, ça peut plonger dans la perplexité, mais parfois, ça amène vraiment cette autre chose qu'on attend. Et si c'est trop angoissant, parce que ça l'est, malheureusement, aujourd'hui, le silence est très mal vécu. La question prend le relais du silence. Et c'est pourquoi l'écoute est aussi questionnante. Après le silence, parfois en interrompant, écouter jusqu'au bout, c'est nécessairement aussi poser des questions. et de plus en plus. Aujourd'hui, je crois qu'on a forcément des concessions à faire au réel qui change, et donc la société accélérée et la société de la communication fait que le silence est mal vécu et que nous aussi, on doit forcément être plus intervenants que ceux qui écoutaient il y a des décennies, et que la question doit venir prendre le relais. On ne doit pas s'empêcher de poser des questions parce que s'installer dans le temps peut impliquer ralentir, bien sûr, mais pas seulement, mais aussi saisir donc le moment de poser une question. Écouter jusqu'au bout, ce serait alors considérer que quand c'est fini, quand quelqu'un nous signifie circuler, il n'y a plus rien à voir ou à entendre, ce qui se résume aujourd'hui en général par voilà. Voilà, c'est fini. Prononcé sur un ton d'ailleurs plus ou moins résigné, eh ben voilà, c'est considérer que ce n'est pas fini et qu'on peut poser une question. Pour ces raisons, si l'écoute est un engagement à contre-temps, c'est qu'elle résiste en fait à l'occultation de l'inconscient dans les discours contemporains. Car l'inconscient ne peut pas se laisser entendre ailleurs que dans les brèches du discours conscient, dans ses failles, dans ses retournements, dans ces sortes de ratures, parler. Non, mais en fait, c'est pas ça que je veux dire, ça doit être le contraire, ça peut être le contraire, etc. Qui sont les censures manifestes de la parole. La société accélérée et l'idéologie de la communication ne peuvent pas laisser leur place à l'inconscient, car elles ne permettent pas la reprise, le retour en arrière, la question, l'arrêt. Et quand l'inconscient se manifeste dans ce contexte, ce n'est plus souvent que sous sa forme la plus effractante. Je ne comprends pas ce qui m'arrive. Et accompagné parfois par les passages à l'acte. La fréquence des passages à l'acte s'explique par cette obturation de l'inconscient. Quand ça se manifeste, ben ça se manifeste parfois de manière fracassante. Donc écouter sans fin, considérer que quand c'est fini, ce n'est pas fini, c'est aller chercher là où le dire se disjoint en quelque sorte de lui-même, laisse place à la brèche de l'inconscient, dans l'idée que ça peut quand même éviter le passage à une plus grande effraction qui emporte le sujet bien au-delà des surprises que peut lui réserver son inconscient si on arrive à rester dans le cadre de la parole sans attendre le passage à l'acte. Mais j'en arrive à ma deuxième partie, pourtant il doit y avoir une fin. C'est nécessaire. Et même si ce n'est pas fini, et même si on sait que ce n'est pas fini, et précisément parce qu'on sait que ce n'est pas fini, eh bien, à un certain moment, il est nécessaire de mettre un terme. De mettre un terme à un discours possiblement sans fin, comme est réellement celui du psychotique, et comme est celui de tout un chacun. De plus, si on fait l'hypothèse d'une psychotisation du social, ça, on aura peut-être le temps d'en discuter, mais la société accélérée et la société de la communication, ce sont des sociétés qui psychotisent le social, en quelque sorte, qui nous mettent dans une psychose sociale alors même qu'on n'est pas psychotique. D'ailleurs, ça parle de partout dans la société de la communication. Partout. Il nous vient des messages de partout. C'est un dire sans fin. Les messages abondent, tous plus brefs les uns que les autres, tous plus bienveillants pour notre bien quand il fait chaud, de boire, etc., d'éviter les trop grands efforts. Les supports sont protéiformes, bien au-delà des médias, qu'on peut après tout bouder. On peut ne pas écouter la radio, ne pas avoir d'écran. Mais il y a toutes les annonces dans les rues, sur les panneaux publicitaires, dans les moyens de transport, même sur les autoroutes, des messages. Attention, vous allez trop vite, etc. Vous voyez votre numéro d'immatriculation qui s'affiche, ralentissez. Ça ne s'arrête pas, il y a des messages partout. Et ce dire sans fin de la communication rend encore plus nécessaire la fin dans l'écoute. Sans fin, il n'y a pas de début. Ce que dit Bergès, on peut l'entendre aussi à l'envers. Pour commencer, il faut qu'il y ait une fin. Si on n'a pas l'assurance d'être écouté jusqu'à la fin, mais c'est-à-dire jusqu'à une fin, on ne peut pas commencer. Le début est solidaire de la fin possible. Et l'absence de fin oblitère le début. Et la chaîne parlée, alors, trouve une forme délirante, sans accroche, qui puisse faire tenir les mots entre eux. Sans accroche, qui puisse faire tenir... Alors, dans notre vocabulaire technique, on peut dire, qui vient de la linguistique, les signifiants, qui sont les images acoustiques des mots, hein, ce qui nous tombe dans l'oreille, avec quand même ce qui est de l'ordre de la signification, hein, le sens des mots, ce qu'on appelle en langage technique les signifiés, chez les linguistes. Hein. Le sens. Alors, bien sûr, j'ai dit tout à l'heure qu'en fait, ce qui nous intéresse, c'est le non-sens, hein, à travers les rêves, à travers les conduites erratiques, à travers les symptômes, et que c'est à cause de ce non-sens que les gens veulent qu'on les écoute. Mais bien sûr, il y a un intérêt aussi au sens, à la signification. Et ce premier intérêt, c'est que ça marque une limite. Une limite avec le non-sens d'ailleurs. Le non-sens n'est repérable qu'à partir quand même d'une signification première qu'il nous est donné à entendre. Le sens, ça prend aussi l'allure première de la définition. La définition, étymologiquement en latin, c'est la limite. La définition, c'est la définition des mots, à laquelle on est tous plus ou moins tenus. On ne peut pas, comme ça, donner une définition aux mots, celle qu'on veut, en laissant ceux qui nous écoutent dans la plus grande perplexité quant à ce qu'on peut dire. C'est un peu un problème de la philosophie en général. Parfois, il y a des philosophes qui définissent un peu les termes comme ils veulent. Et du coup, on ne comprend plus rien. Mais la définition, c'est aussi la définition d'un cadre. La définition de ce qu'on fait. Et de ce point de vue, on doit se rappeler que toute définition, toute détermination est une négation. L'autre jour, je me suis entendu dire « ici on parle » à quelqu'un qui voulait entrer chez moi, enfin dans mon cabinet, avec sa cigarette électronique. Dire la définition du cadre, ici c'est fait pour parler, c'est dire aussi ce qu'on n'y fait pas, par exemple fumer, même avec une cigarette électronique. Le temps de la séance, ou le temps de l'appel téléphonique, fait partie de la définition du cadre. Il permet que le dire, possiblement sans fin, trouve sa fin. Même hors psychose, et même d'ailleurs indépendamment de toute psychose sociale, il faut un cadre, y compris temporel. Si le terme n'est pas fixé, eh bien, il faut savoir qu'il y a un point, quand même, qui ne sera pas dépassé. Son existence et son intériorisation par la personne qui vient parler expliquent ce phénomène que j'ai évoqué tout à l'heure, d'attendre les dernières minutes pour dire l'essentiel. S'il n'y avait pas de fin, eh bien, il n'y aurait pas cette précipitation dans les dernières minutes. S'il n'y avait pas l'idée d'une fin possible que ça va s'arrêter, grosso modo, au bout de 30 minutes, ou un peu plus, ou un peu moins, il n'y aurait pas, au bout de 25 minutes et demie, d'un seul coup, un autre sujet sur un autre ton, dans une autre humeur. Parce que, voilà, c'est ça qui était attendu. S'il n'y avait pas de fin, les effets de vérité ne se produiraient pas. Donc, les choses dites dans une même séance ont certes rapport entre elles. Le début, souvent, annonce la fin, mais à condition qu'il y ait une fin. C'est comme un rêve ou un puzzle, les éléments du dire sont dans le désordre. Et la coupure, qui manifeste l'inconscience, présente souvent quand la fin reprend le début et qu'on peut mettre un petit peu les éléments en ordre. C'est la reprise du début, c'est à la reprise du début qu'on sait qu'on a atteint la fin, parce que l'inconscient est reprise, répétition, insistance, retour. Une écoute sans fin ne pourrait donc pas produire ses effets, car ce qui se dit se diluerait sans que rien puisse émerger et l'ensemble deviendrait inaudible. La montre, pourtant si décrié, fait mesure aussi. Donne un cadre au dire. Surtout, justement, quand on veut écouter jusqu'à la fin. On sait que ça ne tiendra pas en une séance. On sait que ça ne tiendra pas en un appel téléphonique. Mais, précisément, même s'il y a une seule séance ou une seule appel, eh bien, justement, et même s'il n'y a aucune raison d'arrêter un moment plutôt qu'à un autre, c'est la fin qui permet de reprendre, comme par un coup de crochet, le début. Quand bien même la limite serait arbitraire, par exemple l'emploi du temps de l'écoutant, eh bien, cette limite pose un point d'interrogation. Et même, elle mérite parfois de mettre des points de suspension pour que le dire se prolonge pour la personne qui parle et qu'ainsi un bord soit souligné, un bout par lequel on peut attraper les choses. Et même le temps social peut faire bout, hein, par exemple les vacances. Voilà, c'est un arrêt. Eh bien, ça permet de mettre point d'interrogation ou point de suspension. Tandis que celui qui emporte une parole fleuve, celui qui déborde du cadre, celui qui force l'oreille comme on force une porte, eh bien, en quelque sorte, annihile l'autre auquel il s'adresse et se prive de ces points-là. Les effets de l'écoute viennent de ce qu'un autre est un destinataire de la parole. S'il n'y a pas d'autre, il n'y a pas d'écoute. Un dire sans fin serait un dire pas adressé, dont le message inconscient ne reviendrait pas à l'expéditeur en quelque sorte, y compris sous forme de questions ou d'énigmes. Si écouter, ce n'est pas se mettre en position de réceptacle inerte, comme une oreille mécanique, le but n'est pas non plus d'engager un dialogue, même si on ne peut pas exclure que parfois ça en prenne l'apparence. Il n'y a pas à se l'interdire, hein, surtout puisque, comme je le disais tout à l'heure, aujourd'hui le silence est devenu inaudible, est souvent interprété comme une absence. Mais qu'on parle ou pas, qu'on dialogue ou pas, l'écoute, dans la mesure où elle est celle d'un sujet qui s'adresse à quelqu'un d'autre, parcourt en quelque sorte un circuit, fait une boucle. Le but, quand on met un terme, c'est que ça revienne à celui qui s'est mis à parler. Si le sujet se constitue toujours dans le langage, si, comme je disais, et je pense que c'est notre engagement commun, ce qu'on cherche avant même de résoudre ces problèmes, il y a toujours des tas de spécialistes pour ça, des tas d'experts. Ce qu'on cherche, c'est des mots qui nous orientent, qui nous représentent. Ça veut dire qu'on se constitue comme sujet, qu'on se reconstitue dans le langage. Eh bien, c'est cette fin qui donne son relief à la parole. Il faut un autre qui écoute pour qu'il y ait cet autre, ce grand autre, qui est le langage dans lequel on puisse faire son chemin. C'est cela qui fait qu'il y a un sujet. C'est cela qui fait que le sujet, après avoir parlé, se retrouve un petit peu sur ses deux jambes. C'est toujours bancal, mais quand même. Il y a quelque chose qui peut à nouveau dire « je » et qui fait qu'on préfère la vérité dans laquelle on reconnaît son inscription dans l'existence à la satisfaction matérielle ou à la résolution d'un problème. Quand on ne va pas bien, ce que l'on appelle, ce sont des mots qui nous pacifient, même si dans un premier temps, ils nous bouleversent, car ce sont les mots qui conviennent, qui disent un peu de l'expérience et du mal-être du sujet, qui explicitent un petit peu le message qui passe sous une forme cryptée, dans des symptômes ou dans la plainte qui les accompagne. Donc l'écoutant, c'est celui qui fait crédit qu'il y a du sujet. Qu'il y a un sujet et que ce qui lui revient de son propre dire lui permet de modifier son rapport à son existence. C'est aussi comme cela qu'on s'aperçoit qu'il n'y a pas de sujet, d'ailleurs, hein, que ça flotte du côté du sujet et qu'on peut en tirer les conséquences. Mais quand il y a du sujet, et ça, on doit toujours faire crédit qu'il y a du sujet, ça met sur le chemin des signifiants capables de représenter celui-ci, lesquels ne peuvent être que les siens ou accrochés aux siens, et pas les mots anonymes et impersonnels de la consolation ou du conseil, qui sont toujours les signifiants d'autrui, hein, ceux des experts, hein, mais qui produisent cet effet que le sujet se sent seul au monde, pas écouté, pas entendu. Donc entendre jusqu'au bout, jusqu'à la fin, chez Bergès, je pense peut-être que ça voulait dire écouter jusqu'au moment où le sujet, comme on dit, pointe le bout de son nez. Hein. Le bout, ce serait celui de l'énonciation subjective, c'est elle qu'on attend quand on attend jusqu'au bout. Hein. Et cela se donne toujours sur le mode de la surprise, qui est aussi une forme d'effraction de l'inconscient. Le sujet ne se livre pas immédiatement, car le bout est toujours plus ou moins refoulé. Attendre, c'est attendre qu'il veuille bien revenir, quitte à bousculer un peu la donne. Quand on s'engage dans un dire, et il y a toujours bien sûr cet acte de courage, hein, de celui qui commence à parler, quand on s'engage dans un dire, on a parfois peur, hein, ceux qui se mettent à parler expriment parfois cette peur, parce qu'on sait très bien en fait qu'on ne sait pas ce qu'on a à dire, et qu'on va être surpris, et que ça peut nous bouleverser. Et il faut attendre que quelque chose se déroule pour que vienne émerger ce point de butée ou de saillie, où on entend une énonciation qui revient aux oreilles du sujet par l'écoute, parce que c'est adressé à un autre. Donc écouter jusqu'au bout, ce serait attendre ce bout-là que j'ai appelé le point d'orgue, un moment à la fois de suspension et de bascule, de suspension et de saillie, qui fait entendre autrement ce qui vient d'être dit. Écouter jusqu'au bout, c'est introduire dans l'écoute un désir. Si l'écoute n'est pas seulement passive, si elle est animée par un désir dans la vie, par exemple avec ses enfants ou ses adolescents, dans l'écoute bénévole, à téléaccueil ou comme analyste, eh bien, c'est précisément parce qu'on attend un bout de désir, hein, et que nous-mêmes, on ne peut pas écouter sans désir. Il faut qu'il y ait aussi notre désir pour qu'il y ait ce bout qui puisse arriver. Donc, c'est ma troisième partie, hein, que j'ai annoncée. Qu'entend-on quand on désire entendre jusqu'au bout? Le désir, on le sait, c'est d'abord une grande capacité d'attendre. Quand on désire, on attend. On peut attendre sans fin. Hein. Et entendre jusqu'au bout questionne le désir de celui qui écoute, comme de celui qui parle. Écouter, c'est faire à l'autre, en quelque sorte, l'expérience d'être désiré. Bergès, à coup sûr, voulait faire résonner, hein, dans ce bout quelque chose de ce que chez les Lacaniens, dans le vocabulaire technique, on appelle le phallus, hein, qui émerge quand il y a du désir dans la parole, dans le dire, pour distinguer de ce qui se passe dans le corps. Mais en ajoutant jusqu'à la fin, je me suis avisée qu'il rappelait cette oscillation dans le désir entre le zéro de la fin, qui peut faire peur, ça qui fait peur dans le silence, ça fait entendre la mort, la fin, et puis le 1 du désir en tant qu'il pointe. Mais dans les deux cas, on est confronté à cette béance qui est en nous. Il faut l'écoute pour que cette béance ne soit pas trop angoissante, pour que le désir soit soutenu et relancé. On sait bien, donc, avec les enfants, que le fait de ne rien attendre de ce qu'ils disent les rend muets. Mais c'est la même chose avec toute personne qui parle. Et c'est aussi pour ça qu'il ne faut pas comprendre trop vite et ne pas aborder ceux qui nous parlent avec du savoir, en faisant entendre à notre insu que la surprise ne sera pas en rendez-vous, qu'on en connaît un bout et que... Voilà. Allez-y, causez. Mais voilà, ça y est, on a compris. Non, c'est le désir qui introduit de l'altérité dans la rencontre, car il fait échapper à l'illusion d'un rapport duel qui peut passer par le savoir ou qui peut passer par le sentiment de complicité qui n'est qu'une projection de son propre moi, mais qui occulte ce moment de la surprise qui est un rappel de l'altérité et donc de l'existence d'un tiers. Et cela peut s'entendre. Cela s'entend dans la manière dont, dans le désir d'écoute, on est suspendu au dire de l'autre. Mais alors, qu'entend-on ? Quand on écoute en restant suspendu par l'attente d'un peu de vérité, qu'est-ce qu'on attend de celui qui parle ? Quelle forme ce bout, cette fin prend-elle ? Comment reconnaître le point d'orgue si le texte n'est pas écrit par avance, si on ne le considère pas écrit par avance ? Donc, comment écouter aussi ? Comment entendre ? Alors, tout d'abord, je dirais, puisqu'on en est aux métaphores musicales, il y a la voix. La voix, même comme analyste, on l'a beaucoup expérimentée dans le confinement. Personnellement, je préfère, dans ces cas-là, j'ai préféré parler au téléphone plutôt que par un écran. Que la mauvaise image de l'écran brouille le rapport à la voix. Parce que ce qu'on entend, c'est d'abord une voix. Vous, en tant qu'écoutant, vous avez d'abord affaire à une voix. Et comme le dit le phoniatre Jean Habitbol, cette voix, c'est le sujet lui-même. La voix est notre empreinte, dit-il dans son livre « Les voix de notre vie ». C'est notre signature. Elle dit tout de nous. Elle dit tout de nous parce qu'elle dit et parce qu'elle ne dit pas. Et ce qu'il écrit vaut pour toute personne mise en position d'écouter. Il dit « Écouter le patient, quand on est médecin, ce n'est pas seulement décrypter ses mots. Il y a aussi la mélodie de la voix. La voix, il dit encore, la voix est une éponge à émotions. Elle absorbe celle des autres. Elle est influencée par l'environnement extérieur, elle dévoile notre intérieur. Parler est musical. Il y a une musicalité du dire qui peut bouleverser, endormir, réveiller, heurter. La voix est d'abord ressentie. On croit souvent que pour pouvoir écouter, il ne faut pas être une éponge. Mais en fait, si. Car celui qui se défend contre toute émotion possible, dans ce qui lui est dit, n'entend pas la voix, hein, mais il extrait en quelque sorte le dire de la voix qui le porte. L'émotion de l'écoutant, d'ailleurs, peut aussi s'entendre, et ce n'est pas un problème du moment que c'est mis au service de l'attente. Les effets du dire de l'autre passent par sa voix. On sait d'ailleurs d'expérience comment des mots doux dit d'un ton dur, ne provoque pas en retour la tendresse escomptée, mais la méfiance et le retrait. Et qu'inversement, certaines méchancetés passent inaperçues parce qu'elles sont comme du miel, mielleuses. Enfin, quand la voix s'éteint, eh bien, c'est toujours aussi quelque chose qui nous instruit. Ça arrive parfois que quelqu'un parle et soit saisi d'une dysphonie, voire d'une aphonie, sans être malade. L'énonciation est d'abord vocale. Selon ce qu'on dit, la voix change. La vérité module la voix. Et c'est la raison pour laquelle je rappelais le signifiant. C'est l'empreinte acoustique du mot, c'est ce qu'on entend. Écouter jusqu'au bout, c'est souvent attendre la modification de la voix qui ne manque pas de se produire quand on est écouté attentivement. Le point d'orgue, le point de vérité, qui est celui où le sujet s'affirme et se pose, c'est souvent une bascule vocale qui se produit à la faveur de l'écoute. Là, on peut couper, alors, il y a un bout, il y a une fin, même si ce n'est jamais fini. Mais écouter jusqu'au bout, je voudrais dire enfin que ce n'est pas seulement écouter la voix de l'autre, c'est en quelque sorte écouter l'autre comme s'il parlait une langue étrangère. Donc prendre un petit peu de distance avec la signification qui a souvent tendance à monopoliser notre intérêt et qui est en jeu quand il faut aller vite, justement, vite à écouter. Si le but est que l'autre dise ce qu'il a à dire et qu'il ne sait pas qu'il a à dire, la relance la meilleure n'est pas forcément celle qui va nous appâter par le sens et la signification, car ça ferait peut-être taire celui qui parle, c'est cela qui nous rabattrait vers le conseil, la consolation, etc. Mais être attentif aux ponctuations, aux coupures, aux variations de rythme, ce qui suppose qu'on prenne de la distance avec la signification, qu'on écoute comme une langue étrangère. Et ceci, j'en ai trouvé une illustration dans un texte qui est celui de la nouvelle d'un romancier hongrois, Dezső Koskolányi, intitulé « Le contrôleur bulgare ». Dans cette nouvelle qui m'a toujours beaucoup saisie, écouter comme si on écoutait une langue étrangère est pris au pied de la lettre. Le narrateur de cette petite nouvelle d'une dizaine de pages commence par dire qu'on croit souvent, quand on voyage, que pour nouer des relations avec les gens qu'on rencontre, il faut connaître la langue du pays. Alors, avant de voyager, vite, on essaye d'apprendre un petit peu à parler. Mais le narrateur de l'histoire, à la faveur de l'ennui d'une nuit dans un train en Bulgarie, pays dont il ignore la langue, et à la faveur de la rencontre avec un contrôleur qui cherche lui aussi de la compagnie et de la conversation, décide, dit-il, coûte que coûte, d'avoir une conversation, même une longue conversation, une conversation substantielle, sans connaître la langue. Voilà, il faut un contact, c'est vrai, quand on s'ennuie, de l'altérité, mais sans la langue. Alors, bien entendu, comme je disais toujours, il faut quand même un peu de signification. Sinon, c'est dingue. Donc, en l'occurrence, dans cette nouvelle, dans cette fiction, les quelques concessions au signifié sont le lexique disponible du narrateur en bulgare. C'est « Êtes-vous fumeur ?» C'est une nouvelle un peu ancienne. Je ne sais pas si aujourd'hui, ça pourrait encore être le cas, mais « Êtes-vous fumeur ?» Oui et non, bon, en tout, 5 ou 6 mots. La cigarette, c'est pratique, peut être fumée en silence tout en nouant un lien. Elle convoque l'oralité d'une manière qui ne laisse pas supposer une ignorance de la langue, qui est même propre à ceux qui se comprennent, le non-verbal aidant. Mais également les modalités du silence. Bâiller, souffler, se racler la gorge, soupirer, bon, c'est déjà l'entame d'une conversation. Donc le narrateur initie la conversation en bâillant et en soupirant pour se retourner vers le contrôleur d'un silence devenu interrogatif auquel celui-ci répond par quelques phrases qui attendent une réponse. C'est alors que dans ce cas, on n'a généralement pas d'autre option que d'avouer n'avoir pas compris. Et donc le narrateur, après réflexion, répond oui. C'est bien souvent ce qu'on fait quand on écoute. Oui, oui. On s'arrête après quelques phrases et c'est aussi ce qu'on dit quand on ne comprend pas et qu'on attend la suite, qu'on veut entendre jusqu'au bout, que c'est sans fin. Donc oui, oui. Dire oui peut signifier beaucoup de choses, remarque le romancier, y compris non, d'ailleurs. L'effet sur le contrôleur est immédiat. Il parle plus longuement, Mais à nouveau, il attend. Le oui peut alors devenir interrogatif. Oui. Celui qui écoute est fondé à vouloir connaître la suite, à aller jusqu'au bout. Et la suite prend dans la nouvelle la forme d'un long monologue expressif, bienveillant, puis, moyennant diverses relances, le contrôleur ne cesse plus de parler. Le narrateur ne peut absolument pas savoir de quoi. On s'est dit, peut-être des règlements du service, de sa famille, peut-être de ses enfants, peut-être de la culture des betteraves. Tout possible. Mais il pouvait savoir avec certitude que l'histoire était belle et même drôle. Cela, la voix, justement, le corps aussi le disent, et le corps est présent dans la voix. Le point d'orgue paraît l'éclat de rire du contrôleur. Mais un point d'orgue peut en cacher un autre. Après avoir fait lire une lettre, montrer des photos et des objets précieusement cachés sur lui, eh bien, l'interlocuteur du narrateur se met à pleurer. Et là, le narrateur connaît une erreur. Il répond non, non, non et non, dans une optique de consolation. Mais ça déclenche une bascule dans un autre registre. Sa voix a été complètement changée, ça aboutit à une rupture. Donc j'arrête ici le récit, la fin de la nouvelle contenant la dimension proprement romanesque. Enfin bon, suis quand même, tu sais, je crois que c'est pas très facile à trouver maintenant, mais alors donc, voilà, je veux dire, il y a une rupture, chacun s'en va, et puis au dernier moment, quand même, le narrateur n'est pas très content de lui, donc il va le retrouver, et puis il lui serre la main en disant oui, et là, ça déclenche un grand sourire, et ils se quittent très copains, et après une transformation mutuelle, quand même. Cette fiction peut quand même gêner par la dimension de jeu avec un autre. Il y a quand même une dimension d'imposture manipulatoire qui crée un peu la gêne, forme d'abus de confiance, mais elle contient pour nous un rappel vertigineux. C'est-à-dire que quelle que soit la connaissance qu'on ait de la langue de celui ou de celle qu'on écoute, en fait, on ne sait jamais de quoi la personne parle. En raison d'abord du caractère diachronique du dire, ce qui se déroule dans une temporalité, donc on ne connaît pas la suite et on ne connaît qu'imparfaitement ce qui précède. Et la nouvelle met cela en scène de manière un peu abyssale, parce que littéralement, la dimension de la signification fait défaut. Mais elle nous désigne ce que nous ne devons pas oublier, à savoir que nous écoutons en quelque sorte à l'aveugle, à tâtons. Hein, on peut le dire, après tout, les organes sensoriels communiquent. Et il faut se rappeler qu'on est toujours dans la situation du narrateur, même dans une sorte d'imposture de structure, vécue plus ou moins douloureusement à certains moments, qui consiste en ce que le savoir qui nous est prêté est en fait le savoir insu du patient. Ce savoir que lui, il doit retrouver parce qu'on l'écoute. Donc le récit peut choquer, mais on doit se rappeler que, comme le dit Lacan, qui pourtant insistait sur le fait qu'on doit toujours mobiliser tout le savoir et même toutes les connaissances qu'on a quand on entend quelqu'un. Mais néanmoins, Lacan disait, il faut toujours se rappeler qu'en fait, le savoir, il est du côté de celui qui nous parle. C'est lui qui sait, dit Lacan dans les formations de l'inconscient. Jamais oublier que c'est lui qui sait. Dans un autre récit, la situation est à la fois inverse et cependant semblable. Dans La patience des traces de Jeanne Benhameur, un homme, qui se trouve être par hasard un psychanalyste, casse un bol qui réveille une fêlure intérieure jamais cicatrisée. Bon, là, je ne vais pas vous raconter l'histoire, mais je vous dis seulement que de fil en aiguille, le bouleversement de la mémoire conduit le personnage, Simon, à ce qu'on appelle, non pas là le bout du dire, mais un bout du monde, une petite île japonaise. Il part de Bretagne. Et il se trouve là, dans une situation équivalente à celle racontée par Deschecq-Costolani, à ceci près que c'est en connaissance de cause que Simon, le psychanalyste, se met à parler de son histoire à un homme qui, certes, répare les bols cassés sans faire disparaître les fêlures, en le soulignant ces fêlures d'un liseré d'or, hein, comme le veut l'art du Kintsugi, mais surtout à un homme qui ne comprend pas sa langue et qui ne parle que le japonais. Et cet homme écoute le récit, il ne comprend rien, mais il entend la brisure intérieure, il la prend en compte de diverses manières, notamment par l'empreinte, hein, qu'il lui fait faire de la main, hein, du personnage dans la terre. Bref, peu importe, une empreinte, il y a une empreinte. Il entend donc. Alors, autre différence entre les deux récits, entre les deux autres, le vieil homme et le psychanalyste en vacances, il y a une médiatrice, une traductrice, l'hôtesse, qui parle la langue et donc laisse passer quand même un peu de signification. Il faut toujours un peu de signification quand même. Mais la langue est d'abord là entière, comme ce qui sépare et relie, et qui nous rappelle, hein, que le savoir est de côté de celui qui parle. Donc en conclusion, je dirais brièvement qu'écouter jusqu'au bout, ce n'est pas seulement donner du temps pour parler, ou comme on dit dans une conception cathartique propre à la communication, s'exprimer, mais c'est prendre en compte ce qui, quand on entend jusqu'au bout, marque l'achoppement du désir du sujet. C'est dans la relation à l'autre qu'un sujet se fraye un chemin jusqu'à lui-même, et il n'est pas d'autre chemin pour les êtres parlants que de passer par l'adresse à un autre pour trouver les mots qu'il représente dans sa vie. Donc écouter jusqu'au bout, en sortant de la relation duel de la conversation, pour donner accès à ce tiers qui est toujours déjà là, le langage, est l'acte fondamental qui rejoue la constitution du sujet humain entre point de suspension, point d'interrogation et point d'orgue. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout.
Merci à vous. Je ne sais pas si c'est votre cas aussi, mais moi ça me donne à penser et peut-être à réagir. On va prendre avant un café peut-être quelques minutes pour voir s'il y en a parmi vous qui avaient envie de témoigner, de prendre la parole ou d'adresser une question à Hélène Leuillet. Oui. Il faut appuyer sur son... Et quand c'est rouge, alors on entend. Ou alors il faut parler plus fort.
Le texte sur le contrôleur disponible en ligne est disponible en ligne sur le site du CAIR. Il suffit de taper le contrôleur vulgaire sur Google.
Génial, merci pour cette précision. Parce que je crois qu'effectivement l'édition en livre est difficilement trouvable. Ah bon ? C'est pas vrai, je savais pas. Je vais regarder ça. Merci beaucoup.
Oui.
Ah d'accord, super. J'avais pas vu le contrôleur. Merci.
Et le Nuet qui disait qu'elle pouvait le raconter parce qu'on ne le trouvait plus.
Ah ben voilà, il est là. Désolée d'avoir raconté la fin. Enfin bon, je l'ai mal raconté. Donc,
oui, mais ça n'empêche pas d'avoir encore envie de le lire, sans doute.
Oui, tout à fait.
Ok. Quelqu'un qui souhaite prendre la parole ? Dans le fond, juste pour rebondir, parce que il me venait à un moment en vous écoutant, quand vous parlez de la patience et de cette idée de refroidissement, ça m'a rappelé que parfois, quand il y a des jeunes autour de moi, ce qui vient et ce qu'ils disent, quand on leur propose quelque chose, ils me disent « Ah, je suis chaud ».
Oui, je suis chaud. Ah ouais.
Je suis chaud de le faire.
Comme les garçons,
je suis chaud d'y aller.
Oui, c'est ça.
Et puis, vous nous invitez à nous refroidir, alors qu'il y a quand même quelque chose qui fait que pour s'engager notamment dans un bénévolat ou dans un lien professionnel, on a intérêt à être chaud, quoi, pour y aller, parce que c'est parfois dur de se lever, d'écouter des nuits. Il faut être vachement chaud. Oui. Et vous nous invitez à nous refroidir. Je me demande comment on peut faire, vous voyez, sur la patience, etc. Enfin, j'associais à cette idée du chaud et du froid. Et voilà, c'est ce qui m'est venu comme ça en vous écoutant, en disant, mais comme elle y va, alors que parfois c'est essentiel d'être chaud, elle nous invite via la patience à nous refroidir.
Mais d'ailleurs, moi j'ai remarqué que les jeunes, quand ils disent « je suis chaud », c'est pas toujours sur le ton de l'enthousiasme. Enfin, c'est « ok, ouais, je suis chaud ». On dit « où est la chaleur hein ?» Parfois je me dis « bon, bref ». Mais je garde cette remarque pour moi. Mais non, si j'ai dit ça, c'est que je pense que pour pouvoir intégrer un petit peu ce qu'on a dit à quelqu'un dans sa vie, dans sa psyché, dans son discours conscient, dans ses actes, bah, il faut que ça ait un peu refroidi. Mm-hmm. Hein, c'est pas que je le prescris, c'est que je remarque, c'est que quand on touche ce qui est essentiel pour soi, ça brûle, quoi. Ça brûle. Alors, bizarrement, ça se traduit souvent par des larmes, d'ailleurs. Hein. Des larmes d'émotion plus que de tristesse, hein, quand dans la parole on atteint quelque chose de brûlant. Oui, mais je pense qu'on peut filer la métaphore. Ça fait fondre en soi des défenses, ça fait fondre tout ce qui nous servait de protection inutile. Et donc, voilà, les larmes représentent bien la fonte de la glace. Et ce qui veut bien dire que oui, il y a eu là une source de chaleur. Mais on peut pas le tenir, quoi. Il y a un moment, pour l'intégrer, il faut que ça se refroidisse. Et moi, j'en suis venue à ce constat quand, effectivement, je suis frustrée parce que je suis chaud. Justement, j'attends la séance d'après. Je me dis, oh là là, là, toutes les associations, le puzzle, qu'est-ce qui va être arrivé comme prise en compte de ce qui a été dit à la séance d'avant. Puis je me rends compte, bah non, ça a continué comme avant. Et donc, il faut attendre que ça refroidisse en ce sens. Mais en fait, parfois, on se rend compte bien, bien longtemps après que ça a continué à travailler. Hein. Mais en n'y touchant pas trop quand même, hein, pour pas trop se brûler, etc. Voilà pourquoi j'ai dit ça. Bien sûr qu'il faut un peu de chaleur. Hein, mais, bien sûr, tout à fait. Hein. Vraiment, je sais que vous faites un travail extraordinaire et justement qui tient par le désir, quoi, hein, par ce qui reste de chaud, hein, pour le faire. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est engagé, c'est pas optionnel. Il y a le désir qui tient, bien sûr. Oui, je vous remercie de le souligner.
Colette. Alors, il faut parler bien fort.
Voilà, j'ai beaucoup apprécié votre exposé. J'entends que vous êtes psychanalyste, c'est-à-dire que vous travaillez au long cours.
C'est ça.
Vous avez de parler de cette impatience, des effets de telle ponctuation sur la séance suivante. Ici, ce sont essentiellement des gens qui travaillent dans une écoute où la séance est censée être unique. Alors, ce n'est pas tout à fait la même chose, mais il y a quand même, je me demandais ce que vous pouviez apporter aux écoutants, justement, bien que vous parliez de séances qui se prolongent dans le temps, si on devait utiliser ce savoir que vous avez pour une séance unique à chaque fois.
Oui.
Et par ailleurs, à contrario, en quoi est-ce que le fait de travailler avec des séances uniques, quand on est écoutant à téléaccueil ou dans d'autres systèmes d'écoute, peut être utile pour un psychanalyste qui travaille au long cours, à ne plus envisager chaque séance comme unique, par exemple?
Tout à fait. Merci pour cette question qui permet de préciser quelque chose. Oui, j'avais bien conscience que en parlant comme je l'ai fait, il y avait des points de superposition où nos expériences se recoupent et puis d'autres où ce n'était pas tout à fait semblable. Mais je pense qu'effectivement, les deux peuvent se rencontrer dans les deux sens. D'abord parce que je pense que précisément, si vous êtes engagé avec votre désir, vous ne pouvez pas vous empêcher de ce que serait une éventuelle séance suivante ou de ce que va être la suite. On ne peut pas s'empêcher de savoir quelle va être la suite. Et puis que même dans une séance unique, donc la question de aller jusqu'au bout, elle se pose. Déjà, ça dans ce sens-là, mais dans l'autre sens, je dois dire que comme analyste, on doit aussi pouvoir penser que la séance est possiblement unique, hein. Je dois dire, alors surtout avec les patients d'aujourd'hui, hein, qui arrêtent beaucoup plus facilement que les patients de jadis. Parfois, ils vous disent « Bon, ben, je crois que c'est fini, j'aurais bien envie de suspendre les séances. » Alors, on est en plein milieu, là, qu'est-ce qui se passe ? Mais évidemment, aujourd'hui, ben, dans la société accélérée, de la rentabilité, « Oh, ben, ça va, j'ai résolu mon problème, ok, ciao, bye bye. » Donc, il faut pouvoir penser hein, que la séance est unique. C'est arrivé, moi, ça m'est arrivé qu'il y ait des gens qui soient venus pour une séance et qui ne reviennent pas, parce qu'ils avaient dans l'idée... parfois, comme ils savent que la première séance, en général, on ne la fait pas payer, il y a des gens qui viennent. Ben oui, ça m'est arrivé, ça. Hein, ouais. Donc, il y en a une qui me l'a dit, d'ailleurs, hein, qu'elle, comme ça, tous les psychanalystes de Paris y passaient. Bon, elle avait la possibilité, ça donne... Non, parce qu'elle n'avait pas les moyens de payer aussi. Hein, c'est vrai que c'était, je crois, des raisons vraiment économiques. Hein. Mais donc, il faut pouvoir... Vous savez, de même que les stoïciens disent il faut pouvoir vivre chaque jour comme si c'était le dernier, ben, pour lutter contre la procrastination à laquelle nous sommes tous, de laquelle nous sommes tous tentés, même devoir écouter comme si c'était la dernière séance, quoi, comme si il allait y en avoir une après. Bien sûr, on donne rendez-vous, on attend la suite, mais on sait aussi que ça peut être une séance, sinon unique, du moins que ça peut s'arrêter. Je crois que cette conscience-là, c'est ce qui résonne dans le mot de Bergès, le bout, la fin. C'est-à-dire qu'il y a quand même de la fin, parfois, qui ne dépend pas de nous, et il y a de la fin. Et donc, savoir qu'une séance, c'est aussi quelque chose comme, comme une unité. Alors, en sachant, évidemment, toutes les précautions qu'on prend avec la notion d'unité, parce que le dire est sans fin... parce que c'est jamais complet, c'est pas l'unité au sens de la totalisation, mais que c'est la définition. C'est-à-dire qu'on a un temps, et que dans cette séance, il faut quand même qu'on comprenne un petit peu, même pas tant le sens, mais dans quel ordre sont les éléments. Voilà, moi, je me dis ça, quand j'entends les gens, je me dis, mais finalement, ils ont parlé de la même chose au début, à la fin... Au milieu, pourquoi il y a ça ? Quelle est la correspondance hein, entre ces éléments ? Et donc, voilà, ça revient à considérer la séance comme unique. Le 1 du côté de l'unicité, pas de l'unification ni de la totalisation, mais du côté de l'unicité. Je pense que c'est une ligne directrice qu'on peut se donner quand on écoute, qui est utile. Et que donc, que ce que vous faites... C'est pas sans rapport, c'est même quelque chose, je pense, qu'on peut garder en tête, que ça peut être une séance possiblement unique, même si on voit les gens depuis un certain temps. D'ailleurs, en tête, quand les patients parlent après de leur analyse, ils disent bien qu'il y a eu des séances qui ont été uniques, hein, aussi, en ce sens-là que elles sont pas toutes à mettre sur le même plan. Bien sûr que ce qui reste, c'est un travail qui a pris des années, dont des choses ont été oubliées, etc. Mais il y a eu, à certains moments, des séances uniques. Enfin, je ne sais pas si ça répond à votre interrogation.
Ok. À propos de coupure, c'est peut-être le moment d'en faire une, même si on attend la suite. Hein, puisque...
c'est pas fini.
Il va y avoir une suite. Mais d'abord, ce qu'on vous propose, c'est un temps pour un café. Et puis on se retrouve avec David Meillet et Clérane Sevrin pour un temps de discussion. Donc Bonne pause et à tout de suite.